Merci à Pierre et à l'équipe qui nous ont conduits dans la première partie de ce culte. Voilà les préados qui rejoignent le mazet, reconnaissant pour les enfants aussi qui ont repris ce matin avec leur classe d'école du dimanche et aux personnes aussi qui vont ce matin et tous les dimanches à venir cette année les entourer, les accompagner. En lisant le Nouveau Testament, peut-être en particulier le livre des Actes des Apôtres, vous est-il déjà arrivé de penser « mais qu'est-ce que ça devait être bien de vivre à l'époque du Nouveau Testament ?» Il y a des fois, à la lecture du Nouveau Testament, je troquerais bien mes KS Lite, mes chaussures de Décathlon pour des sandales et arpenter les sentiers de la Judée, de la Galilée. C'est vrai que quand on regarde le monde qui nous entoure et le monde ecclésial qui nous entoure, il y a de quoi être dérouté quand on regarde toutes les dénominations, les divisions, les difficultés à vivre l'unité dans les églises d'une manière générale, ces questions doctrinales qui sont diversement comprises aussi et qui sont parfois source de division. Et à côté de cela, cette église du 1er siècle qui, au moins en apparence, donne l'impression que tout allait bien. Mais ce serait un leurre de penser comme cela, de penser que c'était mieux avant. Est-ce que vous savez que seulement 20 ans après que Jésus est remonté vers son Père céleste, il y avait déjà des problèmes qui existaient dans les églises? Les églises ont vécu aussi bien des tensions, bien des difficultés, il y avait des défis. Et on peut dresser ce constat de beaucoup d'églises dont il est question dans les Actes des Apôtres et quand on lit les lettres de Paul en particulier. Et ce matin, nous allons revenir sur l'église qui se trouvait dans la ville de Corinthe, avec bien des difficultés aussi dans cette église. En parcourant les premiers chapitres de la première lettre de Paul aux Corinthiens, on voit un certain nombre d'écueils dans cette église de Corinthe. Il y a des divisions. Il y a des croyants qui prennent parti pour tel et tel responsable et qui n'hésitent pas à mépriser l'autorité des autres responsables. Ils se vantent d'une telle attitude, ils se prétendent même être sages dans le chapitre 1, les versets 10 à 17. Paul rejette cette prétendue sagesse des Corinthiens, versets 18 et 31 du chapitre 1. Il leur explique qu'il n'est pas venu prêcher l'évangile avec beaucoup d'éloquence, mais il a proclamé le véritable évangile, tel qu'on le lit ici dans le début du chapitre 2. « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et on pourrait rajouter « ressuscité », et d'ailleurs il consacrera tout le chapitre 15 de sa lettre à la question de la résurrection pour qu'elle soit bien comprise par les Corinthiens. Le message de l'Évangile révèle la sagesse et la puissance de Dieu, et les chrétiens de Corinthe le savent bien, puisqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Chapitre 2, les versets 6 à 16. Mais dans les faits, beaucoup de chrétiens dans cette église de Corinthe vivaient comme s'ils n'avaient finalement pas reçu le Saint-Esprit. Ils vivaient comme des personnes qui sont dirigées, comme on dit, par leur nature propre, début du chapitre 3. Et cela donne lieu à des chrétiens qui sont souvent divisés, qui sont en train de former des clans, et on connaît cette maxime dans la lettre aux Corinthiens. « Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Pierre, moi, je suis d'Apollos, et il y en a d'autres qui disent « Moi, je suis de Christ ». Il y a des clans comme cela, dans l'Église. Mais Paul leur rappelle en fait que les enseignants de l'Église ne sont que des serviteurs de Dieu. Chapitre 3, les versets 5 à 9. Ce qui compte, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose, mais ce qui compte, c'est l'Éternel qui fait croître. Chapitre 3, verset 6. Et nous arrivons au texte qui va retenir notre attention ce matin. Je vous invite à ouvrir votre Bible Et alors le texte va être affiché ici, mais si vous préférez lire dans votre traduction, j'affiche le texte dans une traduction qui est sensiblement proche de la Colombe. J'espère que ce n'est pas trop petit, mais j'ai voulu que tout soit sur la même diapo. Donc les versets 10 à 17 du chapitre 3 de cette première lettre aux Corinthiens. L'apôtre Paul qui parle et qui dit « Conformément à la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Cependant, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. En effet, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Et si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subirait la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. L'apôtre Paul commence dans cette partie ici, dans ce texte que nous avons lu, par dire qu'il a posé le bon fondement. J'affiche le texte ici en bleu. Il a posé le bon fondement. Il a travaillé comme un sage architecte. Dans son rôle d'apôtre, c'est lui que Dieu a utilisé dans sa grâce pour poser le fondement, pour ici, là, dans le contexte, implanter cette église à Corinthe et pour que cette église soit fondée sur le bon fondement. Paul est sage parce qu'il a posé le bon fondement, mais ça ne fait pas de lui le chef du chantier. C'est Jésus-Christ qui est le maître d'œuvre. C'est Jésus-Christ qui bâtit son église, comme on le lit dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Et en même temps, Jésus-Christ, mort et ressuscité, il est donc le maître d'œuvre, mais aussi le fondement même sur lequel l'église est fondée. Et c'est ce fondement-là que l'apôtre Paul a posé. Paul et les autres apôtres sont présentés dans le Nouveau Testament comme ceux qui ont posé le fondement de l'Église. Le fondement, il a été posé une seule fois, au début. Et depuis, on ne cesse de construire sur le fondement. Quand on construit une bâtisse, qu'est-ce qu'on fait ? On commence par creuser. C'est paradoxal peut-être, mais on voudrait que ça monte, mais en fait, on commence par creuser pour les fondations. Pour creuser des fondations, que ce soit une maison ou un immeuble. Mais plus on veut creuser haut, plus on veut construire haut, plus il faut creuser profond. Là, c'est pareil pour l'Église. Les apôtres ont posé la fondation, le fondement. Et le rôle de ceux qui viennent après, de tous les bâtisseurs dont on va parler dans un instant, c'est de construire sur ce fondement-là. Les apôtres ont donc joué un rôle une fois pour toutes dans l'Église, un rôle qui est unique dans l'histoire de l'Église. Et depuis 2000 ans, les bâtisseurs construisent sur ce fondement qu'est Jésus-Christ. En tout cas, ils doivent s'efforcer de construire sur ce fondement. Le fondement est posé, et maintenant, comme dit la fin du verset, la fin de la partie en bleu ici, eh bien un autre bâtit dessus, dit Paul. Et nous sommes invités, nous sommes exhortés à bâtir sur ce fondement posé, Jésus-Christ, tel que décliné dans cette lettre aux Corinthiens, Jésus-Christ mort et ressuscité. Et suite à ça, l'apôtre Paul lance deux avertissements. Un premier avertissement dans la fin du verset 10 jusqu'au verset 15, et le second dans les versets 16 et 17. Et on va dérouler le texte en suivant ce plan ce matin. Premier avertissement, les bâtisseurs doivent faire attention, doivent prendre garde à la manière dont ils construisent, dont ils bâtissent sur l'Église de Dieu sur le fondement. On reprend le texte. Cependant que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur le fondement. Qui est désigné ici par le que chacun ? Qui sont finalement les bâtisseurs dans ce texte ? Ce chacun, le contexte immédiat permet de dire qu'il s'agit dans un premier temps déjà des prédicateurs, de tous les enseignants de cette église de Corinthe, dont Paul faisait partie, mais d'autres aussi. Mais les responsables, les enseignants d'une église ne sont pas les seuls à bâtir, même s'ils sont peut-être un rôle, ils ont peut-être un rôle prépondérant. Mais ce chacun ici désigne par extension tout chrétien dans l'église, dans le sens où la Bible nous exhorte à être tous partie prenante dans l'édifice, dans la construction, pour le bien commun, pour l'édification de l'église. Servir l'église n'est pas l'exclusivité de quelques-uns. Que nous soyons un homme, une femme, que nous soyons jeunes ou moins jeunes, nouvellement convertis ou convertis de longue date, Dieu nous appelle tous au service. Les bâtisseurs dans l'Église, ce sont les chrétiens, chacun avec, et c'est important de le noter, chacun avec les dons qu'il a reçus. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, dans le chapitre 12 de cette lettre, il reviendra sur la question des dons spirituels que le Seigneur donne à son Église pour l'édification, la croissance de l'Église. Donc, premier avertissement, les bâtisseurs doivent faire attention à la manière dont ils construisent l'Église de Dieu. Ils doivent faire attention pour deux raisons. La première raison, c'est celle que nous avons ici au verset 11, il ne peut pas y avoir d'autre fondement, il n'y en a qu'un. Et c'est une déclaration qui est vitale pour l'Église. Déjà pour l'église de Corinthe, mais pour toute église, de se rappeler qu'il n'y a qu'un seul fondement, c'est celui qui a été posé initialement par les apôtres, il y a donc 2000 ans en arrière environ. Si l'église repose sur Jésus, elle tiendra ferme, elle ne s'écroulera pas. Par contre, tout ce qui est posé un peu à côté, ça va déstabiliser la structure. Le fondement est et il demeure, un peu comme, même si le terme n'est pas utilisé ici, mais cette pierre angulaire dont il est question dans d'autres textes du Nouveau Testament, cette pierre angulaire qu'est Jésus-Christ. Jésus-Christ mort et ressuscité. Cette pierre, elle est là. Ce fondement, il est posé une fois pour toutes. Les bâtisseurs de l'Église dont nous sommes, nous devons veiller à construire en accord avec cet évangile, ne pas s'en écarter, sinon l'ensemble de la structure va être branlant, instable. Et c'est pourquoi Paul dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Si Paul revient sur cette affirmation qui est si vitale pour l'Église, à savoir qu'il ne peut pas y avoir d'autre fondement ici que celui qui a été posé, verset 11, c'est parce que déjà à Corinthe, on avait tendance à modifier ce fondement, à vouloir ajouter à ce fondement, à peut-être retrancher certaines choses de ce fondement. Et ça n'allait pas dans la bonne direction. Il ne peut pas y avoir d'autre fondement que celui qui a été initialement posé. Je me répète, mais c'est tellement important. C'est la première raison pour laquelle Paul met en garde, ici à la fin du verset 10, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur le fondement. La seconde raison que nous avons dans les versets 12 à 15, c'est que Dieu révélera l'œuvre de chacun, versets 12 à 15. Une exhortation à être vigilant à la manière dont on bâtit, en veillant à utiliser des matériaux qui sont durables. J'affiche le texte ici au verset 12. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. Intéressant ces six matériaux. On passe de l'or au chaume. En fait, on peut découper ces matériaux en trois catégories. En deux catégories, pardon. Première catégorie, l'or, l'argent, les pierres précieuses, c'est-à-dire des matériaux qui sont durables. Des matériaux qui vont tenir à l'épreuve du feu. Le feu ne va pas les faire partir. Ce sont des œuvres qui vont subsister jusque dans la vie éternelle. Et puis cette seconde catégorie, représentée par le bois, le foin, le chaume ici, qui sont là pour le coup des matériaux très peu résistants, qui ne durent pas. Et le feu ne tardera pas à manifester ce qu'ils sont réellement. Aucune trace de ces œuvres dans la vie éternelle. Finalement, chacune de nos œuvres dans cette vie se retrouvera dans l'une ou l'autre de ces deux catégories. Il n'y en a pas trois, pas quatre, non, il y en a deux. Je ne pense pas qu'il faille ici tenter de distinguer ce que pourrait représenter l'or, les pierres précieuses, ou bien le chaume, l'un ou l'autre de ces matériaux. Je pense que ça serait exagérer la métaphore que Paul utilise. Mais ce que Paul veut dire, c'est que la qualité des matériaux de construction doit être conforme à la fondation de l'édifice. On sait quelle est la fondation de l'édifice. On l'a vu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Pour le dire autrement, Jésus-Christ est à la fois le moyen, notre modèle pour bâtir. On doit s'inspirer de lui, de qui il est, de tout ce que l'on peut apprendre de lui dans les évangiles, quand on le voit arpenter les sentiers de la Galilée, de la Judée. Mais aussi, Jésus est le but de la construction. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, c'est pour lui, c'est pour sa gloire. Et nous prenons part, en fait, à son œuvre. C'est sa construction, c'est son édifice, et il nous joint à la construction. Retenons cette chose importante. La manière dont nous aurons pris part à la construction de l'Église, la manière dont nous aurons servi l'Église, aura, ou non, des conséquences jusque dans la vie éternelle. Alors, de quelles conséquences parlons-nous ? Toutes nos œuvres seront éprouvées, comme on le lit dans les versets 13 à 15, ici je les relis pour qu'on les ait bien en tête. Verset 13 à 15, « L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Qu'est-ce que Paul veut dire ici ? Par ces versets 13, 14 et 15. Est-ce qu'on peut y voir un argument en faveur de ce que l'Église catholique appelle le purgatoire ? Question qui est pertinente parce que précisément ces versets-là, sont les trois versets qu'on vient de lire, sont les seuls du Nouveau Testament que l'Église catholique utilise pour tenter d'appuyer sa doctrine du purgatoire. Dans le catholicisme, le purgatoire, c'est une étape de purification par laquelle les âmes des morts, en tout cas des morts qui sont destinées à la vie éternelle, doivent expier les péchés dont ils n'ont pas fait pénitence suffisante avant leurs derniers instants de vie. Et donc, le purgatoire est souvent représenté comme un lieu où brûle un feu purificateur pour justement purger les péchés qui demeurent encore pour les âmes des morts qui doivent hériter de la vie éternelle. Mais le feu dont parle l'apôtre Paul ici dans ces versets n'est pas un lieu où le pécheur purge sa peine. Pas du tout. Le feu dont il est question ici, c'est le moyen par lequel le Seigneur va éprouver les œuvres de chacun lors du jugement dernier. Il va éprouver la qualité de nos œuvres en vue de leur donner la juste récompense. Le purgatoire, c'est une invention, alors difficile de la dater. Hein. Certains disent au Moyen-Âge, vers le 8e siècle, et puis ça s'est fait petit à petit. La doctrine s'est mise en place au fur et à mesure, mais en tout cas, derrière la notion du purgatoire, il y a eu la volonté pour l'Église catholique d'atténuer la sévérité de la révélation de Dieu au sujet de l'enfer. Trop dur pour certains. Et donc, il y avait la possibilité de passer par le purgatoire. Mais rien dans la Bible ne va dans le sens du purgatoire. La Bible évoque clairement qu'il n'y a que deux destinées, pas trois, mais deux. La vie éternelle pour ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, dans leur vivant, dans la vie présente, ou inversement la mort éternelle pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour ceux qui ont refusé de se tourner vers lui, pour ceux qui ont refusé de se repentir de leurs œuvres. Alors ok, d'accord, mais comment comprendre ces versets ici? Qu'est-ce que Paul veut nous dire? D'emblée, disons qu'il ne s'agit pas ici de perdre son salut, ce que certains parfois peuvent comprendre. Paul ne parle pas de cela non plus. D'ailleurs, je ne crois pas que le chrétien puisse perdre son salut. Ce que Paul est en train de dire, c'est que les croyants dont les œuvres vont subsister à l'épreuve du feu, eh bien, ils recevront une récompense qui sera à la hauteur de leurs œuvres. Et les croyants dont les œuvres ne subsisteront pas, ils perdront, ils passeront à côté de leur récompense. Mais dans les deux cas, l'apôtre Paul parle de croyants qui seront sauvés, comme on le voit au verset 15, hein, si l'œuvre de chacun est consumée, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais voilà, un peu tout juste là, hein, comme au travers du feu, mais il sera sauvé quand même. Nous aurons des comptes à rendre pour tout ce que nous aurons fait dans la vie présente. Nous n'avons pas à craindre de perdre notre salut, mais il n'en demeure pas moins que cette expression ici, « sauvé, mais comme au travers du feu », ça devrait quand même nous faire réfléchir. Quand bien même on peut bâtir sur le fondement qu'est Jésus-Christ, il se peut que toutes nos œuvres ne soient pas récompensées, parce que certaines peuvent être sans valeur. Et l'avertissement garde toute sa pertinence pour nous aujourd'hui. Ce que je fais dans ma vie, est-ce une réelle contribution à l'œuvre de Christ, pour la croissance de son Église? L'investissement de mon temps, de mon énergie, de mon argent, est-ce que c'est placé au service de Dieu, au service de l'Église qu'il est en train de bâtir? On peut se poser la question, mais oui, mais comment savoir si ce que nous faisons dans la vie présente, c'est de valeur ou pas? Paul ne donne pas la réponse là dans ce texte. Il dit que c'est uniquement au jour du jugement que le Seigneur va révéler la qualité de l'œuvre de chacun. Donc, c'est difficile de pouvoir évaluer la qualité de notre service dans la vie présente. Alors, bien sûr, on pourrait regarder ici ou là dans le Nouveau Testament, il y aurait bien des choses à dire. Mais peut-être, si on veut se cantonner au texte qui est là aujourd'hui, je vois deux applications au fait que Paul ne donne pas de réponse à cette question. Comment évaluer la qualité de notre service? La première application, eh bien, gardons-nous de tout orgueil. On pourrait être fier à nos yeux de nos réalisations pour Dieu. Ah, j'ai fait ça. J'ai fait ceci pour mon Église. Et on pourrait s'enorgueillir de cela. On pourrait me le dire autour de soi, regarde ce que j'ai fait. Ou, de manière détournée, faire dire à l'autre, regarde ce que lui a dit d'eux. Gardons-nous de tout orgueil quant à nos propres œuvres. Ou même quant à l'appréciation que d'autres peuvent avoir. Je sais pas qui a dit ça le premier, mais je l'ai entendu tellement de fois. Ce prédicateur à qui un fidèle vient le voir un dimanche matin, « Oh, pasteur, c'était super cette prédication de ce matin, vraiment, ça m'a beaucoup parlé, c'était super, il faut continuer, etc. » Et le prédicateur, le pasteur, de répondre, « le diable me le dit souvent aussi. » Parce que le diable, il veut inviter à nous enorgueillir de ce que nous faisons. Mais ça vaut pour tout ce que nous faisons, du petit service au service peut-être un peu plus visible dans l'Église. On peut très vite s'enorgueillir. Et le diable se réjouit quand on s'enorgueillit de notre œuvre. Deuxième application, gardons-nous de tout désespoir. On peut avoir tendance, parfois, à se dire que les œuvres que nous faisons pour le Seigneur, elles sont peut-être sans valeur. Elles ne servent pas beaucoup. Elles ne sont pas visibles ou pas autant visibles que d'autres frères et sœurs qui peuvent intervenir de manière visible le dimanche pendant le culte ou quoi. Et on se dit, mais est-ce que vraiment ce que je fais, c'est utile? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça sert vraiment? Ce ne sont pas les œuvres qui sont les plus visibles, ce ne sont pas les œuvres qui frappent le regard qui seront nécessairement de l'or, des pierres précieuses et de l'argent. Même des petites œuvres faites dans la semaine, à l'abri des regards, pourraient s'avérer être de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Gardons-nous de tout désespoir. Quand quelqu'un vient la semaine pour faire le ménage à l'église, on ne voit pas la personne faire. On ne sait pas combien de temps ça lui a pris dans sa journée, dans sa semaine. Elle vient ou elles viennent, ces personnes. Et si on y est sensible, on voit peut-être le résultat le dimanche, si on regarde au sol, si on prend le temps de... Ou alors on vient et on ne s'en soucie pas, mais en tout cas, il n'empêche que l'œuvre de cette personne ou de ces personnes, elle n'en est pas moins précieuse. Ne nous hâtons pas de juger tel ou tel service, que ce soit le nôtre ou celui d'un frère, d'une sœur dans la foi. C'est au jour du jugement que l'œuvre de chacun sera révélée. Au jour du jugement. En attendant, bâtissons. Bâtissons de manière durable, avec des matériaux qui tiendront l'épreuve du feu. Prenons pour modèle notre Seigneur Jésus de par son humilité, de par son esprit de service, lui qui n'a cessé d'aimer d'un amour qui se donne, d'un amour sacrificiel. Et que ça puisse nous motiver dans nos motivations d'être comme Jésus a été. Que ça soit ça notre moteur dans les œuvres que nous faisons, qu'elles soient petites ou plus visibles ou je ne sais quoi. Premier avertissement donc, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur ce fondement qui a été posé initialement. Et maintenant, le deuxième avertissement. Dieu détruira ceux qui détruisent son temple. Versets 16 et 17. Et nous relisons ces deux versets. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Quelles sont ces personnes ici qui détruisent le temple de Dieu? L'apôtre Paul s'adresse à une église, il s'adresse à ceux qui sont dans l'église. Ce sont dans l'église de Corinthe et dans toute église, ceux et celles qui, par leur mode de vie, ou par leur enseignement, ou par leur critique parfois, veulent détruire ce que Dieu cherche à construire dans son église. Ce sont ceux qui veulent poser un autre fondement que celui qui a été posé initialement. Ce sont ceux qui, même sans le vouloir forcément explicitement, même sans le vouloir volontairement, mais qui finissent par diviser l'Église, ou qui sont une menace pour la division de l'Église. On l'a vu, l'Église de Corinthe a un certain nombre de défis. Il y a des divisions. Et Paul, au chapitre 5, il évoquera le cas d'un inceste, de procès entre chrétiens. Il est question également au chapitre 6 d'immoralité sexuelle, etc. Enfin, il y a beaucoup de problèmes qu'il mentionne ici. Et quand on regarde ce qui se passait dans l'église de Corinthe, on peut s'interroger chacun personnellement s'il ne nous arrive pas parfois de manquer de cohérence entre ce que nous croyons, entre ce que nous professons d'un côté et ce que nous vivons de l'autre. En agissant peut-être parfois comme des personnes qui sont dirigées par leur nature propre et que ça nous amène à de la débauche ou à des mauvaises pensées, à des querelles, à des jalousies dans l'Église, à un manque de pardon, à des excès de colère, à des rivalités, à des disputes, des divisions, etc. Aucune Église n'est parfaite, aucun chrétien ne l'est non plus. Mais malgré tout, malgré tout ce constat qu'on peut dresser de l'Église de Corinthe, ce qui est le plus extraordinaire, c'est que Paul est en train de dire dans ces deux versets qu'elle est quand même le temple de Dieu. Elle n'en demeure pas moins le temple de Dieu. Et Paul le dit même deux fois, vous êtes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. L'Église est le temple de Dieu. Le temple, dans la parole de Dieu, c'est le lieu de la présence de Dieu. Déjà dans le tabernacle, et même en remontant jusqu'au jardin d'Éden, Dieu était présent là, dans ce temple, dans le temple qui est le tabernacle, dans le temple à Jérusalem. Et puis, l'Église, au sens des personnes qui constituent l'Église, qui constitue le peuple de Dieu. L'Église est le lieu où Dieu demeure par son esprit. Dieu est présent ce matin par son esprit. Non pas dans le bâtiment avec les pierres ici, en briques ou je ne sais pas en quelle, voilà, mais il est présent parce que nous sommes là les personnes. Si on avait fait le culte dehors, il aurait été présent dehors, là, avec nous. Dieu est présent par son esprit. Dans son Église, les personnes qui constituent son peuple. Et cette image ici du temple de Dieu permet à Paul d'insister sur l'exigence de sainteté. Car en tant que demeure de Dieu, tous les croyants à titre individuel, mais aussi sur le plan collectif, nous sommes appelés à la sainteté. Paul nous exhorte à rechercher à vivre en conséquence de ce que nous sommes. Nous sommes un temple saint, c'est ce que vous êtes, dit Paul. Un temple saint. Et la raison pour laquelle Dieu détruira les destructeurs du temple, c'est que le temple de Dieu est saint. Et Dieu ne peut pas tolérer qu'il y ait cette division dans son Église. Derrière ce second avertissement, il y a une exhortation ici à bâtir dans la sainteté, en vue de la sainteté, en vue de l'unité. Une église bâtie sur le fondement qu'est Jésus-Christ, c'est une église qui est appelée à vivre ce qu'elle est. Et qu'est-ce qu'elle est ? Elle est un temple saint. Un temple où il y a la présence de Dieu. Un temple qui sert à rendre un culte à Dieu. Dans la Bible, est saint ce qui est destiné au culte, à adorer le Seigneur. Par conséquent, toutes ces fois où l'église de Corinthe marche dans le péché, dans les querelles, dans les divisions, et de même pour les églises aujourd'hui, quand elles se déchirent, elles manquent de vivre ce pourquoi elles sont destinées. Elles sont destinées à être dans la sainteté, à être un temple saint pour le Seigneur. L'église de Corinthe, je l'ai déjà dit et je vais encore revenir dessus maintenant, elle était divisée en clans, avec à la tête de chaque clan un maître à penser. Et dans le contexte de l'époque, c'est... À la limite, ça pouvait se comprendre parce que dans le monde, disons, non chrétien, c'était chose courante. On suivait un maître philosophique. Ah tiens, j'aime bien ce qu'il dit, celui-là, je vais être le disciple de ce maître-là. Ah moi, je préfère le maître qui est ici. C'était courant, hein. On suivait un maître à penser, un maître philosophique en fonction de ses propres convictions et puis de ses attentes. Ouais, mais lui, il me plaît bien, je vais être disciple de ce maître-là. Mais le problème avec l'église de Corinthe, c'est qu'ils avaient tendance à reproduire ça aussi dans l'église, avec la conséquence que ça créait des clans. Ouais, moi, je préfère lui ou moi, je préfère le parti d'Apollos. Moi, je suis du parti d'Apollos, disaient certains. Parce qu'Apollos avait beaucoup d'éloquence, il était fort en persuasion. Il était donc très apprécié dans le monde grec, parce que pour les Grecs, l'éloquence, ça en envoyait. Contrairement à Paul, qui lui était moins apprécié, parce qu'il avait moins d'éloquence que Apollos. D'autres de l'église de Corinthe avaient pris le parti de Pierre. C'est vrai, Pierre, après tout, c'était quand même un témoin oculaire de Jésus. Vous imaginez à l'époque, vous croisez Pierre, « Ah ouais, Pierre, t'as rencontré Jésus, raconte-nous et tout !» Ouais, moi, je suis du parti de Pierre, parce que lui, il a vu Jésus. Et ainsi de suite. Certains, le parti de Paul, d'autres, le parti de Christ. Et je pense que ça sera le défi de l'Église de Dieu jusqu'au retour de Jésus d'arriver à vivre l'unité. Le positionnement en clan, c'est vraiment un écueil. Et il y aura toujours le risque de nous attacher aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et même parfois, on s'attache aux hommes, mais sous couvert de spiritualité. Hein. On fait ça, on fait les choses bien quand même. Hein. Mais on se trompe de cible. On n'a pas les regards fixés sur Jésus. Et Paul nous met en garde contre l'esprit de parti. Parce que ces partis-là, ils existent encore aujourd'hui. Le parti d'Apollos, il existe encore de nos jours. Eh oui, il existe. On raffole de ces prédicateurs, de ces leaders dans les méga-churches américaines. Et le phénomène existe en France, hein. On aime de plus en plus ces prédicateurs avec beaucoup d'éloquence, beaucoup de charisme. On les trouve sur YouTube, hein, il n'y a pas besoin d'aller loin. Hein. Avec même les traductions, tout. Enfin, ils ont beaucoup d'éloquence, etc. Et on risque de prêter une considération plus grande à tous ces prédicateurs-là et de moins en moins aux prédicateurs de notre église locale. Parce que ceux qui sont sur YouTube, oh, ils ont l'éloquence. Et du coup, on suit le parti d'Apollos. Le parti de Pierre, il existe aussi de nos jours. Tout comme à l'époque, certaines personnes pouvaient être fascinées par les récits de l'apôtre Pierre. Wow, il nous raconte ça, un disciple, un apôtre qui a vu Jésus. Eh bien, certains aujourd'hui pourraient être fascinés aussi par l'extraordinaire, le sensationnel, les choses qui frappent le regard, qui frappent l'attention. Et beaucoup de divisions surviennent dans les églises de nos jours. Parce qu'on attendrait plus de sensationnel, plus d'émotionnel aussi parfois. Et ces prédicateurs-là savent jouer sur les émotions pour nous garder avec des petits pouces bleus là. Mais on oublie que le Seigneur, il est à l'œuvre principalement, essentiellement, dans les choses ordinaires, dans les petites choses. Parfois, il y a du sensationnel avec le Seigneur, mais essentiellement, ça passe par l'ordinaire, les petites choses de la vie. Le parti de Paul, il existe aussi de nos jours. Paul, ce grand théologien aux exposés doctrinaux, si on prend une Bible très littérale, vous regardez des passages, parfois il y a dix versets, c'est une seule et même phrase, on est perdu. Un enseignement solide, costaud. Même Pierre dit que c'est pas facile à comprendre dans sa deuxième lettre. De tout temps, on a vu des personnes qui étudient la Bible en long, en large, en travers, qui passent leur vie à l'étudier, qui vont en université de théologie, mais qui derrière, en fait, ne font que l'étudier, mais ne vivent pas ce qu'ils vivent, ce qu'ils croient. Ce n'était pas le cas de Paul. Paul, c'était vraiment ce grand théologien, mais qui vivait ce qu'il enseignait. Ne faisons pas non plus partie de Paul, de ceux de Paul qui pensent qu'il faut étudier, et qui finalement passent à côté de l'essentiel, cette relation personnelle avec Jésus. Paul avait cette relation personnelle avec Jésus. Le parti d'Apollos, de Pierre, de Paul existait, mais je vais peut-être vous surprendre, le parti de Christ aussi, il existe aujourd'hui. Le parti de Christ. Prendre le parti de Christ selon le contexte des Corinthiens, ça se traduirait par le refus de se soumettre aux autorités de l'Église, voire même aux autorités tout court, sous prétexte de n'être soumis qu'au Seigneur Jésus. Moi, je suis du parti de Christ. Je n'ai pas d'autre autorité au-dessus de moi que Christ. Et cela peut prendre la forme de personnes qui donne parfois l'impression d'être plus spirituel que d'autres, plus connecté à Dieu, plus avec une foi authentique, parce que connecté à Christ. Mais ça peut créer des divisions dans les églises, parce que le Seigneur nous a dit qu'il y a aussi des autorités. Ce que Paul dit dans le texte que nous méditons ce matin nous concerne aujourd'hui encore, en 2023. Paul dénonce l'esprit de parti. Ça ne convient pas à l'Église de Dieu. Ça sème la zizanie, ça détruit l'Église. Et il y a ce deuxième avertissement, Dieu détruira ceux qui détruisent son temple. Paul nous invite à rester attachés à Jésus-Christ et à l'enseignement qu'il nous a transmis. Jésus-Christ est le fondement sur lequel tient et repose l'Église de Dieu. Alors plaçons notre confiance dans le seul fondement qui vaille, Jésus-Christ. Mort et ressuscité, comme Paul l'a rappelé et le rappelle le martèle dans cette première lettre aux Corinthiens. Mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est le seul fondement. Que notre vie soit fondée sur lui. Que tout ce que nous faisons en Église soit fondé sur lui. Et c'est bon de se le rappeler en ce début d'année, alors qu'on reprend certaines de nos activités. Bâtissons ensemble sur le bon fondement. Mais ne bâtissons pas n'importe comment. Souvenons-nous qu'au retour de Jésus, nous aurons à rendre compte de nos œuvres. Elles seront éprouvées par le feu pour révéler ce qu'elles valent. Donc, bâtissons de manière durable, de tout notre cœur et en comptant aussi sur la grâce de Dieu. Et bâtissons en mettant toute notre ardeur à servir le Seigneur dans la sainteté. Parce que c'est notre vocation d'être saint, d'être destiné à rendre un culte au Seigneur. C'est ce à quoi nous avons été appelés. Et si vous lisez 1 Corinthiens, les deux premiers versets, il est question de cela. Une fois n'est pas coutume, j'aimerais laisser le mot de la fin à un commentateur. J'affiche son nom ici. Je vais vous lire la citation pour terminer. Ce sera la conclusion. L'Église actuelle n'est pas un produit fini, mais un chantier à moitié terminé. Comme dans toute autre construction, le chantier n'est pas toujours beau à voir. Il y a de la boue, des murs partiellement terminés, des erreurs qui restent à corriger. Il faut attendre la fin de l'ouvrage pour admirer sa beauté. Il en va de même pour l'Église. Cependant, même à moitié terminée, elle est l'ouvrage de Christ et sa gloire. Citation de Corinthiens 8, 23. Elle est l'habitation de Dieu par le Saint-Esprit. Malheur à celui qui la méprise et la démolit par ses attitudes ou ses actions. Il est important de se rappeler la vérité affichée sur certains badges. Soyez patients avec moi, le Seigneur n'a pas encore achevé son travail en moi. Nous arrêtons là, nous laissons travailler, mijoter tout ce que nous avons entendu ce matin. Je réaffiche cette diapo récapitulative. Et je vous invite à vous lever pour entonner un dernier chant dans notre culte ce matin. Ce chant qui dit « Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps ».